Bienvenue sur France Culture avec une minute de retard. Mes excuses, il est 12h31. C'est l'heure du journal de Thomas Larabi. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Les pays riches font main basse sur les vaccins contre le Covid-19. Selon Oxfam, des pays représentant 13% de la population mondiale ont commandé à l'avance la moitié des vaccins en préparation, avec l'espoir que l'un d'entre eux se révèle efficace. Et le rapport d'Oxfam alerte sur la difficulté qu'aura forcément une grande partie de la population mondiale à trouver des vaccins. On y revient au début de ce journal.
Et dans votre journal également, Alexeï Navalny, qui aurait été empoisonné dans sa chambre d'hôtel. Selon son équipe, l'opposant à Vladimir Poutine est toujours hospitalisé en Allemagne depuis près d'un mois. L'Allemagne qui demande aujourd'hui l'aide de l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques pour enquêter sur ce possible empoisonnement. Précision avec Claude Bruyot depuis Moscou.
Et c'est la rentrée syndicale en France. Déçue par le plan de relance, la CGT, la FSU et Solidaires appellent à la grève et à la manifestation ce jeudi contre les suppressions d'emplois et pour la hausse des salaires. Alors épidémie oblige, la mobilisation risque d'être en demi-teinte, mais vous l'entendrez, ce n'est pas de nature à démotiver Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT.
L'exécutif monte au créneau face à Bridgestone. Le groupe japonais compte fermer l'usine de Béthune dans le Pas-de-Calais qui emploie 850 personnes. Une décision révoltante pour le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Le gouvernement qui réclame des alternatives à la fermeture.
Oui, pour en parler avec nous ce midi, notre invité est Alain Griset, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Il répondra aux questions d'Anne-Laure Jumet à la fin de cette édition. Et juste après cette édition, justement, qu'est-ce que vous nous réservez, Olivier?
C'était une action spectaculaire et très médiatisée. Juin 2019, le Sea-Watch accoste sans autorisation contre le blocus italien à Lampedusa. À son bord, des migrants, une quarantaine d'hommes et de femmes en état de détresse. À la tête de ce navire, une jeune capitaine, c'est l'Allemande Carola Rackete, qui revient aujourd'hui dans un livre sur l'importance, voire l'urgence d'agir. Elle sera notre invitée à partir de 12h55.
La guerre mondiale des vaccins a commencé. Un groupe de pays riches représentant 13% de la population mondiale a réservé la moitié des futures doses de vaccins contre le Covid-19. Ce sont les chiffres d'un rapport de l'ONG Oxfam publié hier. Ces pays riches s'approvisionnent par précaution auprès de nombreux fabricants concurrents dans l'espoir qu'au moins l'un d'eux trouve un vaccin efficace. Valérie Clova.
Sans surprise, les États-Unis figurent dans la liste publiée par Oxfam. Dès le mois de mai, 800 millions de doses ont été réservées pour les 330 millions d'Américains. L'Union européenne n'est pas en reste avec 1,5 milliard de doses réservées. Le Royaume-Uni, le Japon, la Suisse, mais aussi Hong Kong, Israël et l'Australie ont également signé des contrats auprès de 5 grands laboratoires qui sont en phase 3 d'essais cliniques de façon à préempter plus de 5 milliards de doses prête à être utilisée si les essais s'avèrent concluants. Un nationalisme sanitaire dénoncé par Oxfam qui réclame un vaccin accessible à tous, gratuit et distribué équitablement en fonction des besoins. L'accès vital au vaccin ne doit pas dépendre d'où on habite ni de l'argent que l'on a, regrette l'un des responsables de l'ONG. D'autant qu'il existe un dispositif de mutualisation internationale, le dispositif COVAX, soutenu par l'Organisation mondiale de la santé, un dispositif boycotté par les États-Unis et qui, par voie de conséquence, manque cruellement de financement.
Et aux États-Unis, justement, ces futurs vaccins sont plus que jamais un argument de campagne en vue de la présidentielle du 3 novembre. Donald Trump assure hier que son pays disposerait d'un vaccin dans très peu de temps, dès le mois d'octobre, allant à l'encontre des avis des experts sanitaires. Direction le Pérou, désormais l'un des pays les plus durement touchés par l'épidémie de Covid-19, en tout cas celui présentant le plus fort taux de mortalité. Conséquence, les élèves n'ont plus classe en présentiel depuis 6 mois maintenant, et cela est amené à durer. Selon le gouvernement, les 8 millions d'élèves péruviens ne devraient pas retrouver les bancs de l'école avant le courant de l'année 2021. Une correspondance d'Amanda Chaparro.
Ce matin, ses cours virtuels de mathématiques pour Zoé, 7 ans, qui vit dans un petit village des Andes. Derrière son écran, elle tente de suivre le programme à distance mis en place par le gouvernement et diffusé quotidiennement sur télé, radio ou ordinateur.
Parfois, c'est un peu difficile et très ennuyeux. J'aimerais bien retourner à l'école.
Comme Zoé, 8 millions d'élèves sont contraints d'étudier depuis leur domicile. Les écoles sont fermées depuis le mois de mars, une situation qui devrait encore durer des mois. Une source d'inquiétude pour les enfants comme pour les parents, expliquent ces deux pères de famille.
Les enfants n'apprennent pas comme ils le devraient. Quand ils vont en classe, ils peuvent interagir avec les autres élèves et le professeur.
Nous les parents, parfois, nous ne savons pas expliquer à nos enfants. Parfois aussi, nous n'avons pas le temps, seulement l'après-midi.
Manque de disponibilité des parents, d'accès à Internet ou à un ordinateur. Les obstacles sont nombreux et les difficultés s'accumulent pour les élèves et leurs familles, comme l'explique Angela Bravo, éducatrice et ancien membre du ministère de l'Éducation.
Au Pérou, nous avons un grand nombre de chefs-lieux, quasiment 45% qui n'ont pas d'accès à Internet et d'autres qui n'ont pas l'électricité. On croit que ce sont des problèmes lointains qui concernent que les zones rurales ou les plus isolées d'Amazonie, mais en réalité, l'accès à des équipements est très limité, même dans les villes.
Un défi pour le Pérou, le décrochage scolaire est important. Selon l'INSEE péruvien, un élève sur trois a abandonné l'école rien qu'au mois d'août.
Une correspondance d'Amanda Chaparro. Le voile qui se lève doucement sur l'affaire Alexeï Navalny. Selon son équipe, l'opposant à Vladimir Poutine aurait été empoisonné à l'aide d'une bouteille d'eau qui se trouvait dans sa chambre d'hôtel à Tomsk et non à l'aéroport, comme cela a été évoqué jusqu'à présent. L'opposant, souvenez-vous, a été victime d'un malaise le 20 août dernier à bord de l'avion qui le ramenait de Sibérie à Moscou. Hospitalisé dans un premier temps à Omsk en Russie, il a été transféré deux jours plus tard à Berlin, craignant que des preuves ne soient effacées. Alors depuis le début du mois, Berlin estime avoir entre ses mains la preuve de cet empoisonnement à l'aide d'une substance neurotoxique. L'Allemagne qui, ce matin, demande l'aide de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'OIAC, afin d'analyser de nouveaux prélèvements. Et désormais, ce sont donc les circonstances de cet empoisonnement qui s'éclaircissent peu à peu. Claude Bruyot depuis Moscou.
Sur la vidéo postée via le compte Instagram d'Alexeï Navalny, on voit un homme en t-shirt noir présenté comme un membre du collectif anticorruption avec des gants en plastique en train d'inspecter la chambre d'hôtel de l'opposant à Tomsk en Sibérie centrale. Les images ont été tournées également en présence d'un avocat qui assistait à l'inspection de la chambre d'Alexeï Navalny. Les partisans du blogueur anticorruption situent cette scène une heure seulement après l'annonce de son possible empoisonnement. La caméra s'arrête sur des bouteilles d'eau pour deux d'entre elles vides, posées sur un bureau, et une troisième sur une table de nuit. Les bouteilles ainsi que d'autres objets sont empaquetés dans des sacs en plastique bleu et auraient été transportés jusqu'à Berlin. Le collectif Navalny assure avoir recueilli plusieurs témoignages de passagers voisins de l'opposant pendant son vol retour, qui assurent tous qu'Alexeï Navalny n'a pas consommé d'eau dans l'avion. Raison pour laquelle ils sont convaincus aujourd'hui que leur leader a été empoisonné à l'hôtel à Tomsk et non en buvant du thé à l'aéroport local. Aucun commentaire officiel à ce stade, le Kremlin reste depuis le début adossé aux analyses des médecins russes qui rejettent la thèse de l'empoisonnement.
Une correspondance de Claude Bruyot depuis Moscou. Opération de police ce matin sur l'île grecque de Lesbos à la rue depuis l'incendie du camp de la Moria il y a 10 jours. Des milliers de migrants ont été transférés dans un nouveau camp d'urgence. De nombreux réfugiés refusent de s'y installer. Ils craignent de se voir de nouveau coincés plusieurs mois dans l'attente d'un éventuel transfert vers le continent grec ou un autre pays européen. Nouveau scandale dans la police allemande. Des procédures disciplinaires sont engagées contre 29 policiers pour avoir participé à un groupe WhatsApp. Dans ce groupe, les agents s'échangeaient des photos d'Adolf Hitler et de croix gammées par centaines, ou encore le montage d'un migrant incrusté dans une chambre à gaz. 34 bureaux de police et plusieurs appartements ont été perquisitionnés. Le pays qui est aussi frappé par cet extrémisme de droite au travers d'attentats et d'actes terroristes qui se sont multipliés depuis un an. C'est même aujourd'hui la plus grande menace de l'aveu des dirigeants qui pèsent sur la démocratie allemande. Ludovic Piétenu depuis Berlin.
On peut citer le réseau Hannibal, par exemple, révélé au grand jour par la presse il y a 2 ans à peine. Une sorte d'armée de l'ombre qui entendait se substituer à l'État le jour de son effondrement. On trouvait pêle-mêle des soldats de la Bundeswehr, des réservistes, des officiers, des membres de la police criminelle, des juges, des employés de l'Office fédéral en charge de la protection de la Constitution, ceux-là même qui surveillent tous ceux qui menacent la démocratie allemande. On y trouvait aussi des membres des SEK, les forces spéciales commando de la police, leur équivalent dans l'armée, le KS. SK s'est aussi retrouvé sous le feu des projecteurs pas plus tard qu'au début de cet été. La ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, a dû dissoudre l'une des 4 compagnies, la numéro 2, 1 millier de soldats responsables de la disparition de 48 000 munitions et 62 kilos d'explosifs, à qui l'on doit aussi une sinistre fête d'adieu à l'un de leurs commandants. La vidéo a circulé, salut hitlérien et tête de cochon jetée en l'air. L'ensemble de ces forces spéciales est aujourd'hui menacé de dissolution totale par la ministre. Sa décision est attendue le mois prochain. D'autres scandales ont éclaté ces dernières années dans d'autres régions que la Rhénanie du Nord-Westphalie dont on parle aujourd'hui. On peut citer la Bavière, la Hesse, le Mecklembourg-Poméranie, des policiers très souvent associés à l'idéologie des Reichsbürger. ces nostalgiques du Reich allemand, ils seraient 20 000 environ dans le pays, les mêmes que l'on a vu défiler avec leurs drapeaux noir, blanc et rouge à Berlin à deux reprises au mois d'août pour protester contre les mesures de restriction liées à l'épidémie de coronavirus.
Une correspondance de Ludovic Piétonu depuis Berlin. La nature qui continue de se fâcher aux États-Unis, en plus des incendies à l'ouest, c'est le déluge qui s'abat sur le sud-est du pays. L'Alabama et le nord-ouest de la Floride ont été balayés cette nuit par les pluies de la tempête Sally. Résultat, des rues transformées en torrents et des inondations catastrophiques avec au moins un mort et plus de 500 000 foyers privés d'électricité. Et à l'ouest, les incendies continuent. Ils sont si puissants que la fumée est propagée jusqu'en Europe. Ces fumées sont classées comme malsaines et même dangereuses par endroits, par les autorités locales qui commencent à s'inquiéter des conséquences sanitaires d'une telle exposition aux fumées. Changement climatique toujours et direction l'Australie où tout le monde n'a pas tiré les enseignements des incendies records qui ont ravagé l'île en janvier dernier, tuant plus d'un milliard d'animaux. Exemple, avec ce tourisme sorti tout droit du monde d'après, la compagnie aérienne Qantas lance le mois prochain des vols qui vous emmèneront là d'où vous êtes parti. Les frontières de l'Australie étant fermées, la compagnie veut proposer à ses clients des vols touristiques au cours desquels ils pourront admirer depuis le ciel les plus beaux paysages de l'Australie ou du moins ce qu'il en reste. À Sydney, la correspondance de Grégory Pless.
À Paris, on a les bateaux-mouches. À Sydney, ils ont des Boeing 787 Dreamliner. Coronavirus oblige, les Australiens n'ont pour l'instant pas le droit de quitter le territoire. Et même en Australie, leurs déplacements sont très limités, les frontières entre les États étant toujours fermées. Alors pour rassasier leur soif de voyage, la compagnie Qantas va lancer à partir du 10 octobre prochain des vols touristiques qui survoleront certains des lieux les plus emblématiques de l'Australie. Une croisière de 7 heures au départ de Sydney qui va d'abord longer la côte est et ses plages de rêve jusqu'à la grande barrière de corail et les sublimes îles Whitsundays en forme de cœur. Ensuite, direction le désert rouge au centre du pays et le plus célèbre rocher du monde, Uluru, qui surplombe une plaine désertique en plein milieu de l'Australie. Le 787 volera à basse altitude lorsqu'il passera à proximité des principaux points d'intérêt pour s'assurer que les passagers n'en perdent pas une miette. Cette offre n'a en tout cas eu aucun mal à trouver son public. Tous les billets ont été vendus en quelques heures.
En France, c'est la rentrée syndicale pour la CGT. La FSU est solidaire. Déçue par le plan de relance, les trois organisations lancent un appel à la grève et à la manifestation ce jeudi contre les suppressions d'emplois en cette période de crise et pour la hausse des salaires. De mars à septembre, 345 plans de sauvegarde de l'emploi ont été recensés. C'est 110 de plus que l'an dernier sur la même période et surtout, cela pourrait représenter jusqu'à 51 000 emplois. Alors malgré les conditions sanitaires qui devraient limiter les rassemblements cet après-midi, cette journée de mobilisation est nécessaire et ne va pas à l'encontre de l'unité nationale, estiment les syndicats. Écoutez le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez.
C'est la prise en compte de toutes les problématiques qu'il y a. Il y en a nombreuses en matière de santé, en matière de conditions de travail, d'organisation de travail, mais aussi en matière de salaire, parce que je croise beaucoup de salariés à qui on a dit qu'ils étaient indispensables durant le confinement et qui sont toujours payés comme en début d'année. Donc, vaste sujet, et puis évidemment les questions d'emploi, parce qu'il y a beaucoup de plans de restructuration. Aucun n'est justifié, mais il y en a qui sont particulièrement scandaleux. Je pense à Auchan, où l'entreprise se porte très bien. C'est ceux qu'on a salués durant le confinement, et pour des raisons spéculatives, il n'y a pas d'autre mot, de rentabilité, ben, il y a un plan de restructuration de 1500 emplois. Il n'y a jamais eu autant d'argent de donner aux entreprises, et elles continuent à se plaindre, et par contre, le gouvernement a une oreille attentive vis-à-vis et relaie ce discours qu'on serait le pays où les entreprises seraient le plus taxées. Mais on est un des pays où les entreprises sont les plus subventionnées et ça, on oublie d'en parler. Donc il faut arrêter, quoi. Si on veut garder notre modèle social qui a fait ses preuves durant ce confinement, bah, il faut que tout le monde prenne part à l'effort national, pas que les salariés, pas que les privés d'emploi, mais aussi les entreprises, parce qu'il faut qu'elles payent des cotisations et qu'elles payent des impôts.
Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, est à Paris. La manifestation part à 14h de la place de la République, direction Nation. Quand il y a des dizaines de milliers d'emplois en jeu, on ne se précipite pas. Déclaration du ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, ce matin à propos de l'affaire Veolia-Suez. Veolia qui donne jusqu'à fin septembre à Engie, dont l'État est l'actionnaire de référence, pour répondre à son offre de rachat de sa participation de près de 30% dans Suez. Veolia qui souhaite par la suite lancer une offre sur l'ensemble du capital de son concurrent Suez, afin de créer un grand champion français dans le traitement de l'eau et des déchets. Le conseil d'administration de Suez a rejeté cette proposition. l'opposition, jugée hostile, et l'exécutif, d'abord alléché, freine désormais des quatre fers et refuse la pression mise par Veolia. « Je ne suis ni dans le camp de Suez, ni dans celui de Veolia », a précisé Bruno Le Maire ce matin. Une décision révoltante, toujours pour le ministre de l'économie Bruno Le Maire. La fermeture de l'usine Bridgestone continue de faire réagir en France. Mercredi, le fabricant japonais de pneumatiques révélait son projet de fermeture de l'usine de Béthune dans le Pas-de-Calais. L'usine ouverte en 1961 emploie aujourd'hui 853 salariés. La ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher promet une réunion qui pourrait se tenir lundi avec les dirigeants européens de Bridgestone pour trouver une alternative à cette fermeture. Quant aux raisons de la fermeture, certes, la conjoncture est loin d'être florissante, mais la crise sanitaire n'explique clairement pas tout, Hakim Kasmi.
Oui Thomas, si la crise sanitaire a certes ralenti le marché automobile européen et que les particuliers ont vu leurs revenus baisser avec la crise et ont préféré acheter des pneus à bas coût, notamment pour du remplacement, la Covid-19 n'explique pas tout, car le site de Bridgestone dans le nord de la France souffre aussi d'un sous-investissement chronique depuis 10 ans, ce qui l'a rendu moins compétitif par rapport à ses concurrents, d'autant que sur les petits pneus où sont fabriqués à Béthune, les marges sont moins importantes et la concurrence est beaucoup plus rude, notamment avec la Chine et la Corée. Contrairement aux pneus des SUV, ces gros 4x4 de ville à la mode mais un peu polluants qui représentent 40% du marché, mais surtout des camions et des tracteurs, des pneus qui coûtent plusieurs milliers d'euros avec de grosses marges, que Bridgestone a fait le choix de produire en Pologne et en Espagne, des pays où la manœuvre est aussi moins chère, comme nous l'explique Bernard Julien, professeur à l'Université de Bordeaux et spécialiste de l'automobile.
Chez Bridgestone, c'est plutôt l'Espagne qui fait les pneus pour véhicules lourds. Ensuite, sur le véhicule particulier qui reste un marché évidemment très important en volume, on sait que les consommateurs ont développé une très forte appétence pour les SUV. Les SUV, ils sont équipés de pneus plus grands, plus chers aussi. Et évidemment, si Béthune avait été positionné sur ce marché-là, ça aurait été plus facile.
Enfin, rappelons que Bridgestone va bien, puisque l'année dernière, l'équipementier a terminé numéro 1 mondial avec des marges à 2%.
Les précisions d'Hakim Kasmi. Et pour en parler avec nous, ce midi, notre invité est Alain Griset, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Bonjour.
Bonjour.
Et pour vous interroger dans ce studio avec nous, Anne-Laure Jumet, chef du service éco de la rédaction de France Culture. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
Alors première question, Alain Griset, ce matin on le disait, la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher demande des alternatives à la fermeture de ce site. Elle réclame un projet industriel avant de réfléchir à mettre de l'argent public. Mais de quels outils dispose encore l'État face à un tel groupe privé qui veut fermer ?
Tout d'abord dire l'émotion qui est la mienne. Vous savez que je suis originaire de cette région de France. Et naturellement, penser à l'ensemble des habitants, des familles, des ouvriers concernés sur un territoire qui est déjà fragile. Et naturellement, l'État est déterminé à tout faire pour qu'on puisse trouver une solution, pour que ce site ne disparaisse pas en totalité. Et donc, nous mettrons en œuvre tous les moyens possibles pour réussir à trouver des solutions.
Mais tous les moyens possibles, Alain Griset, ça veut dire quoi ? Le groupe dit, on a étudié toutes les solutions, la fermeture est inéluctable.
Je pense que en réalité, ils n'ont pas du tout étudié comme solution. Avec le conseil régional, il y aura une réunion la semaine prochaine. Certaines pistes ont été évoquées en termes d'investissement, de façon à pouvoir adapter l'usine aux nouveaux besoins. Et l'État est naturellement prêt à regarder de quels moyens on peut éventuellement disposer pour accompagner toutes les solutions qui permettront de garder l'emploi sur ce territoire, ce qui est totalement indispensable.
Vous dites à Bridgestone, utiliser le plan de relance, utiliser la possibilité de faire financer des investissements pour gagner en compétitivité et rester à Béthune, c'est ça ?
Oui, c'est une piste. Par exemple, on a l'activité partielle de longue durée qui permet pendant 2 ans de pouvoir réduire le temps de travail éventuellement avec une prise en charge de l'État. C'est un outil, donc si les dirigeants de Bridgestone considèrent que là il y a une difficulté, naturellement ils pourront utiliser cet outil-là. Puis dans le plan de relance, il y a aussi des moyens assez importants concernant les investissements. Donc il faut, avant de penser à licencier et à fermer, il faut regarder ce qu'on peut faire. L'objectif du gouvernement, c'est de maintenir l'emploi, d'éviter le chômage de masse. Et Bridgestone est un élément sur lequel nous souhaitons pouvoir utiliser tous les outils. Encore une fois, je le dis...
Vous pourrez leur présenter les outils.
Fragile.
vous pourrez leur présenter les outils. Pardon, monsieur le ministre, vous pourrez leur présenter les outils, mais vous n'aurez pas de moyens de contrainte. S'ils veulent fermer, ils fermeront. Vous l'avez évoqué, le bouclier anti-licenciement, hein, ce chômage partiel de longue durée, qui permet de réduire le temps de travail d'au maximum 40% pendant une période de 6 à 24 mois. Mais peu d'entreprises ou de branches s'en saisissent aujourd'hui. Comment y remédier?
Tout d'abord, c'est un nouvel outil qui répondait à un besoin au regard de l'évolution de la situation économique. C'est vrai que globalement, pour l'instant, peu de branches ont mis en place cette négociation. Ce que Bruno Le Maire a dit et Elisabeth Borne, c'est inciter les branches à se saisir d'une vraie opportunité. C'est vrai qu'il y a un sujet particulier sur les plus petites entreprises qui n'ont pas cette possibilité de faire quelquefois des accords d'entreprise. Et moi-même, j'ai proposé aux partenaires sociaux de regarder de quelle manière il pourrait y avoir une sorte d'accord chapeau permettant aux plus petits d'utiliser un outil qui donne de la perspective et donne quand même aux salariés une garantie pour 2 ans. C'est absolument fondamental.
Donc afin que les petites entreprises qui n'ont pas forcément de représentants syndicaux puissent se saisir de cet accord cadre prêt à l'emploi en quelque sorte.
Tout à fait. Vous savez, la complexité est souvent une grande difficulté. Au plus l'entreprise est petite, au plus la complexité est difficile à gérer. Donc si on peut simplifier en ayant un accord chapeau, je pense que beaucoup de petites entreprises seraient satisfaites et utiliseraient le dispositif.
Alors il faut que les partenaires sociaux le négocient, cet accord cadre. En tout cas, les syndicats sont furieux, Alain Griset. Une nouvelle disposition assouplit les conditions dans lesquelles l'entreprise doit rembourser ses aides quand elle n'a pas respecté ses engagements de maintien dans l'emploi. On parle toujours de ce bouclier anti-licenciement. Est-ce que vous allez changer cette disposition?
Écoutez, on est dans une situation de dialogue social. La position du Premier ministre est très claire, c'est de dire il faut dialoguer, il faut qu'on puisse échanger de façon à atteindre l'objectif qui est vraiment le nôtre, qu'on doit partager. C'est de sauver les entreprises qui sont en difficulté et c'est de maintenir l'emploi. Et donc s'il y a sur un sujet quelque chose qui nécessite qu'il y ait de nouveaux discussions, je pense qu'il y a pas de doute, Elisabeth Borne recevra les partenaires sociaux pour regarder de quelle manière on doit pouvoir travailler pour que tout ça se passe dans les meilleures conditions possibles.
Tout ça pose en tout cas la question des contreparties aux aides publiques. Ne peut-on pas envisager un système pour sanctionner les entreprises qui abusent? Ce matin, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, estime qu'on doit aller récupérer les subventions accordées à des entreprises qui seraient vraiment des entreprises voyous. Et on revient un petit peu sur le cas Bridgestone. Qu'en pensez-vous, Alain Griset?
Quand on a affaire à des voyous, je pense que là-dessus, il faut effectivement que l'État soit intransigeant. Mais la contrepartie, elle existe. La première contrepartie, c'est de dire lorsqu'on accompagne les entreprises, c'est pour qu'on puisse maintenir l'emploi. Et donc la contrepartie, déjà, c'est que on maintienne l'emploi, qu'on permette aux salariés de conserver leur travail. C'est un élément qui est tout à fait important. Et le travail qui a été fait depuis le mois de mars, c'est naturellement le fait d'accompagner les entreprises, d'accompagner les salariés et au bout du compte d'éviter qu'il y ait un massacre en termes d'emploi et un chômage qui se développe. Donc ça, c'est sur le principe, ça existe. Maintenant, vous comprenez très bien que il n'y a pas question qu'on puisse mettre en place des outils qui, au bout du compte, viendraient contrecarrer l'objectif qui est de permettre de relocaliser, qui est permettre aux entreprises de pouvoir développer leur activité.
Donc il faut accorder de certaines souplesses. Il y a aussi ce dispositif dans le cadre du plan de relance pour l'emploi concernant l'apprentissage avec ces aides accordées aux entreprises qui embauchent un apprenti. Cela dit, il reste difficile pour les jeunes de trouver un employeur dans la période que l'on traverse. Quelle réponse peut-on leur apporter?
Tout d'abord, dire qu'aujourd'hui, on a un résultat presque inespéré en termes d'apprentissage, puisque à peu de choses près, je crois qu'on va quasiment arriver à avoir un nombre d'apprentis équivalent à l'année passée. Donc d'abord, remercier les maîtres d'apprentissage qui ont fait cet effort. Féliciter aussi les familles et les jeunes d'avoir choisi cette voie de formation, qui est une formation qui permet d'aboutir à l'emploi. Et en ce qui concerne les jeunes qui aujourd'hui n'auraient pas trouvé de maître d'apprentissage, dans la loi qui a été votée, dite loi de Pénicaud, qui a été votée en 2018, il y a un dispositif qui permet pendant 6 mois aux jeunes d'être dans le centre de formation sans maître d'apprentissage. Et pendant ces 6 mois, l'encadrement du centre de formation trouve une entreprise. Et j'ai pas de doute que cette période permettra à chacun de trouver l'entreprise adéquate.
Merci Alain Griset d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes ministre délégué et chargé des petites et moyennes entreprises. Merci Anne-Laure Jumet et merci à Arthur Gerbeau pour les moyens techniques. Foodwatch monte à l'assaut des emballages alimentaires. L'ONG lance une pétition contre les emballages alimentaires, je cite, plein de vide. Il s'attaque à 7 marques en France, parmi elles Sojasun, Barilla, Carrefour et Leclerc, champion de France avec 68% de vide dans ses emballages selon Foodwatch. L'ONG accuse les fabricants de créer des déchets inutiles mais aussi de faire miroiter une plus grande quantité d'aliments que celle réellement présente dans les paquets. Pour finir, la météo de cet après-midi, grand soleil pour tout le monde, à l'exception des Hautes-Alpes qui auront le droit à quelques orages. Côté température, comptez 20 à Cherbourg, 22 à Lille et jusqu'à 32 degrés à Bordeaux. C'est la fin de ce journal. Il vous a été préparé avec l'aide de Nicolas Pommet. À la technique, Jérémy Kaufmann.